Eh bien, c'est une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Je dois vous dire que vous m'avez beaucoup manqué. Parce qu'en anglais, c'est vous m'avez... oui, vous m'avez manqué. Il faut que j'y pense. Je ne devrais pas aller là, là. Oubliez tout ça. Alors, ce matin, on veut ouvrir la parole de Dieu. Alors, on va demander au Seigneur de nous parler. D'accord? Un court moment. Seigneur, on veut, au sein de toutes nos préoccupations aujourd'hui, on veut... que nous pouvons nous retrouver. Parle-nous maintenant, nous t'en prions. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà imaginé quelle serait votre vie et la mienne si... elle n'était vécue que pour elle-même. Peux-tu imaginer ne vivre que pour toi-même? Tu vas me dire, je connais beaucoup de gens qui font ça très bien. Et puis peut-être que je faisais ça beaucoup avant de connaître le Seigneur Jésus, mais la vie pour beaucoup de gens, c'est quoi? C'est moi, moi, moi. Ça se concentre sur le moi. Mais une vie qui est concentrée sur le moi, c'est une vie qui est ennuyeuse, qui est vide de sens, qui est égoïste. Et c'est d'autant plus vrai pour un enfant de Dieu. Moi, je dois vous avouer qu'en 45 ans de vie chrétienne, les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées, les chrétiens qui m'ont le plus marqué, ce sont des personnes qui, je dirais, étaient heureuses, mais qui ont appris le bonheur d'une vie, quoi pensez-vous? Axée sur eux-mêmes? Non. Une vie consacrée aux autres. Une vie consacrée aux autres. Dans Acte 20, on connaît ce texte où l'apôtre Paul cite le Seigneur Jésus. Il cite une parole que nous ne retrouvons pas dans les Évangiles. C'est intéressant, ça arrive des fois dans l'Écriture. Tout ce que Jésus a dit ne nous est pas relaté dans les quatre Évangiles. Mais il y a une parole que l'apôtre Paul cite, que Jésus aurait prononcée, et vous la connaissez très bien. Il n'y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Exactement le contraire de la nature humaine. La nature humaine croit que le bonheur, c'est de recevoir plutôt que de donner. C'est « donne », comme une sangsue, nous est écrit hein, dans les Proverbes. La sangsue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « donne ». C'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas les sangsues quand on va se baigner. C'est parce qu'elles veulent notre sang. Une vie axée sur soi-même, c'est une vie où les gens veulent recevoir plutôt que donner. Mais pourtant... Paul nous présente dans Romains chapitre 12, un texte extrêmement important dans le Nouveau Testament, d'ailleurs tous les textes le sont, mais l'épître de Paul aux Romains dans chapitre 12, Paul nous présente à quoi ressemble d'abord, et nous, dans les premiers versets qu'on a lus, à quoi ça ressemble une vie qui est consacrée à Dieu. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à quoi offrez vos corps comme un sacrifice vivant. D'abord, la vie chrétienne devrait avant tout, avant n'importe qui, là, envers n'importe qui. C'est une vie qui est d'abord concentrée, ou consacrée plutôt, à Dieu, à tout d'abord. Quand on remet notre vie à Jésus-Christ, on consacre notre vie à Dieu. Et là, on s'offre en sacrifice, comme un culte raisonnable, selon sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, ou selon ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, dans Romains 12, Paul, dans les versets 3 à 8, nous décrit comment cette vie-là se manifeste de façon concrète. Il commence d'ailleurs par l'humilité, hein, de ne pas avoir de prétention déraisonnable, de se penser supérieur aux autres, mais de rester humble. Ensuite, il va nous présenter le service mutuel, l'interdépendance dans le corps de Christ. Comment les chrétiens doivent mettre au service des autres le don qu'ils ont reçu et on se sert les uns les autres. Qu'on ait eu le don de service, le don d'enseignement, le don d'aide, etc., on met nos dons au service des autres. Donc, on voit que Paul passe d'abord d'une vie qui est consacrée à Dieu à une vie qui est consacrée aux autres. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement, je ne peux pas juste dire, moi j'ai consacré ma vie à Dieu, mais je ne veux rien savoir des autres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, on voit dans les versets 9 à 16, et c'est à ces versets que je vais attirer votre attention, il va parler de l'amour qui est démontré en pratique envers les frères et les sœurs. Parce qu'une vie consacrée aux autres, c'est une vie qui va aimer les autres. Tu ne peux pas dire, je vais me consacrer aux autres sans les aimer. C'est très pénible de faire ça. Si on n'aime pas les gens, moi je regardais dans les premiers temps de la pandémie, je regardais les gens qui étaient consacrés aux personnes âgées et je me disais, ils ne sont pas là pour la paye d'abord. Ils ne sont pas là parce que c'est juste le devoir. Ils sont là parce qu'ils aiment les personnes. Et pour s'occuper de personnes âgées, il faut les aimer. Pour s'occuper de n'importe qui, dans le fond, il faut les aimer. Des fois, on se demande comment les gens font pour se consacrer autant à une personne, à un besoin. On regarde peut-être des parents qui ont un enfant qui a des besoins spéciaux, puis on regarde ça et on dit, moi, je ne serais jamais capable. Mais peut-être qu'on n'a pas l'amour qu'eux ont envers leur enfant. Hein? Nos enfants, on les aime, on n'a pas besoin de nous le dire. Hey, oublie pas, il faut que tu aimes tes enfants. Non, c'est là. On aime. Et donc, ce que Paul fait, quand il parle de l'amour fraternel, vous en conviendrez que c'est un sujet qui est très actuel en cette période de retour en assemblée. Parce que de revenir ensemble, il y a les incertitudes, il y a les différences d'opinion, il y a tout ce qu'on entend, les informations contradictoires. Quand ce n'est pas un complot, c'est autre chose. Les médias sociaux nous inondent d'informations et c'est très facile comme chrétien de ne plus savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Toutes sortes d'opinions différentes, même chez les chrétiens qu'on trouve. J'avais une rencontre jeudi avec d'autres, avec nos masques et tout, là, et puis on a commencé à discuter de certaines choses, puis je m'aperçois que les opinions diffèrent entre les chrétiens. Et c'est normal. Mais ici, je pense que plus que jamais, ce que Paul dit, ça s'applique à ce qu'on vit en ce moment. Nous avons besoin de nous rappeler, je dirais plus que jamais, ces exhortations. Paul ne mange pas ses mots dans cette section. Il nous, littéralement, là, il sort la mitraillette, je dirais. C'est vous que, et pas la mitraillette pour nous descendre. J'appellerais ça une mitraillette d'exhortation. Il nous sort 15 exhortations, les unes après les autres. Et ce qu'il nous dit, en fait, c'est que notre vie, elle doit être consacrée aux autres, si on les aime. Ça va de soi. Alors, le défi, vous allez voir, c'est pas de les comprendre, ces exhortations-là. Je suis convaincu qu'à 98%, on va toutes les comprendre. C'est de les vivre et de les mettre en pratique. Ça, c'est plus un défi pour nous. Alors, il commence au verset 9 et 10 en disant ceci. « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Je pourrais passer juste l'avant-midi là-dessus, mais on a prévu terminer en 11 heures pour notre première. Alors, je vais respecter le temps. Mais un amour authentique. Vous remarquerez, on va laisser le verset là. Que l'amour soit sans hypocrisie, donc sans tromperie, sans flatterie. C'est réel, c'est exprimé dans la vérité. On a tous rencontré des personnes qui, extérieurement, sont polies, sympathiques, mais quoi? Qui, intérieurement, nous méprisent ou nous ridiculisent. Ils sont polis. Ils font semblant de nous aimer. Et il y a trop de gens, n'est-ce pas, qui veulent tellement avoir l'amour des autres qu'ils font semblant. Mais l'amour doit commencer d'abord par être un amour sans hypocrisie. Il nous faut aimer d'une façon véridique, sans jouer la comédie. Et en fait, ce que Paul va faire, va nous décliner cet amour véridique-là. On pourrait dire que la suite du texte, c'est une déclinaison d'un amour sans hypocrisie, une vie consacrée envers les autres. Alors, on va regarder 15 exhortations. C'est la toute première fois dans ma vie, je pense, de prédicateur, que j'ai 15 points dans mon message. Mais rassurez-vous, ils vont être très courts. On va juste les survoler rapidement et juste commencer à réfléchir comment ces choses-là s'appliquent dans notre situation actuelle, dans nos vies et dans un retour à une normalité que j'appelle anormale. Alors, ça commence avec l'horreur du mal. Ayez le mal en horreur. L'amour véritable, vous en conviendrez, a de la haine pour ce que Dieu a en horreur. Et on sait que Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il a en horreur. Moi, depuis que j'ai consacré ma vie à Jésus-Christ, et vous aussi, dans le fond de votre cœur, vous ne pouvez plus vous plaire dans ce qui est mal. Votre conscience va vous achaler. Si vous avez aucun, si la conscience ne vous dérange pas du tout, posez-vous la question si vous appartenez au Seigneur. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, ça va le déranger. Le mal qu'il va pratiquer ou le mal auquel il va participer va le déranger. Et ce qui devient de plus en plus difficile, c'est qu'on vit dans un monde où, comme il nous est dit dans l'Écriture, un malheur à l'homme qui appelle quoi? Le bien mal et le mal bien. On ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui était mal il y a 30, 40 ans, c'est bien aujourd'hui. Puis ce qui était bien, c'est devenu mal. Mais en gardant à l'esprit l'autorité de la parole de Dieu, il n'y aura pas de doute. Le bien va demeurer le bien et le mal va demeurer le mal. Alors, on a vraiment besoin de demander à Dieu de nous éclairer et de nous sonder, de dire, Seigneur, montre-moi ce qui est bien et montre-moi ce qui est mal. Et le deuxième, évidemment, va avec lui l'attachement au bien. Par amour, attachez-vous fortement au bien, verset 9c. Dieu veut me voir, littéralement, là, me coller au bien, me cramponner au bien, rechercher le bien dans ma vie. Notre monde et ses valeurs veulent nous pousser vers le bien? Non, vers le mal. Toujours vers le mal, et ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais l'amour véridique recherche ce qui est bien. Troisième exhortation, et celui-là, elle nous a manqué, la tendresse fraternelle. On peut avoir de l'affection, comme il dit, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. On peut avoir de l'affection, mais on sait qu'à distance, c'est plus difficile. Il y a un élément là, qui est plus difficile. Moi, j'aurais bien aimé ce matin tous vous donner une belle accolade, même ceux qui n'aiment pas ça. Pas grave, ça. J'aurais aimé ça vous serrer, vous donner un beau baiser d'affection, donner une bonne poignée de main, comme certains font dans l'Église, ils donnent ça, ils t'arrachent presque le bras, là. Mais c'est pas grave. Pour eux, c'est une marque d'affection. On aurait aimé ça, faire ça. Mais dans une famille, le lien qui nous unit les uns aux autres, c'est l'amour. Et la Bible appelle ce lien-là, hein, cet amour-là, le lien de la perfection. Paul le dit ailleurs, je pense que c'est dans Colossiens, si je ne m'abuse. Je sais que c'est à gauche, en bas dans ma Bible, rangée de gauche. C'est là, le lien de la perfection. L'amour s'est exprimé par des gestes, des paroles d'affection, et c'est le contraire de notre culture individualiste. Et ça, c'est une des choses que la pandémie a faites. Oui, elle a donné l'occasion aux gens de faire certaines choses, de refaire certaines choses que ça fait peut-être longtemps qu'ils ont fait, mais ça a amené les gens qui ont tendance à être individualistes peut-être à l'être encore plus. Et on doit lutter contre ça. On a besoin de lutter contre ça. La quatrième, je trouve qu'elle est très actuelle. La déférence ou la considération mutuelle. Il dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça veut dire quoi, ça, de la prévenance réciproque? Il y a un auteur, je pense que c'est la Sommeur, ça a été traduit, « Rivaliser d'estime réciproque ». Avez-vous déjà pensé à ça? Aujourd'hui, je vais me lever puis je vais rivaliser d'estime réciproque, les uns avec les autres. Lorsque tu aimes l'autre, tu n'hésites pas à quoi? À le faire passer avant toi. C'est ça l'idée de prévenance réciproque. De me mettre dans les souliers des autres et de le faire passer avant moi. De voir ses besoins comme étant importants. C'est une autre façon que Paul lui-même a utilisée. Il a dit en d'autres termes dans Philippiens 2:4, lorsqu'il fait cet exposé extraordinaire sur l'abaissement de Jésus-Christ et sa glorification comme Seigneur et Sauveur. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère quoi? Aussi ceux des autres. Tu sais, Dieu ne nous demande pas d'arrêter de manger, d'arrêter de prendre soin de notre corps, d'arrêter de grandir, puis de payer nos factures, puis tu sais, de prendre soin de notre famille. Mais il nous demande aussi de considérer les intérêts des autres. Donc, Paul dit dans Philippiens 2 que ça, c'est la pensée de Christ, imaginez. C'est la pensée de Christ, ça, de considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Et je dois vous dire que c'est un défi énorme en ce moment. Après une période de confinement, d'isolement même pour plusieurs, le fait qu'il nous était impossible de nous rencontrer physiquement, d'avoir des rencontres sur Zoom qui n'étaient pas toujours faciles, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça, puis je comprends. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi là, être à l'ordi, être en caméra, parle-moi pas de ça, je ne veux pas ça, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de choses qui arrivent et puis on a certaines des activités qui vont continuer sur Zoom cet automne. Et peut-être que ce n'est pas ton premier choix. Au lieu de dire, moi, je n'aime pas ça, pense donc, pense aux intérêts des autres. Sais-tu que les autres, ils sont contents de te voir à l'écran? Ils sont encore peut-être plus contents de te voir en personne. J'ai dit à plusieurs personnes ce matin qu'elles étaient beaucoup plus belles en personne, même avec un masque, qu'à l'écran. Et c'est vrai, je le dis sincèrement, parce que je suis heureux de vous revoir en personne. Mais on doit se préoccuper des autres. On doit se préoccuper des gens, par exemple, qui ne sont pas dans nos contacts immédiats. Des gens dont qui on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Alors, au lieu d'avoir le réflexe de demander au pasteur, « Hey, telle personne, là, leur j'ai un coup de fil. Envoie-les un courriel. Contacte-la. » Si elle fait une crise cardiaque parce qu'elle pense que tu l'appelles puis elle se demande pourquoi, elle va revenir de sa crise cardiaque. Faites-en pas avec ça. Et elle va être heureuse, sûre, que tu te sois intéressé à elle. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, ayons cette préoccupation d'être tourné vers les autres, d'user de prévidence réciproque. Bon, on va accélérer. La cinquième exhortation, le zèle ou l'empressement. Ayez de l'empressement et non de la quoi? De la paresse. Personne n'a des luttes avec ça, la paresse ici. Ah, on ne connaît pas ça, nous autres, la paresse. Ben oui, la nonchalance, ça nous guette. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas du minimum. Par exemple, je donne un exemple très pratique, tu choisis de contacter quelqu'un qui a besoin d'encouragement, dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis des semaines, même si tu es fatigué. Même si tu préférais regarder ton émission favorite, tu dis, ce soir, je vais prendre le temps, je vais prendre 10-15 minutes, puis je vais appeler telle personne, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Ça va lui faire plaisir. Et puis, si elle ne peut pas te parler là, elle va te le dire. Alors, on a tellement besoin d'avoir du zèle, parce qu'il y a des choses qui bougent avec des gens qui sont zélés et qui sont empressés. La sixième, la ferveur d'esprit. Donc, ça veut dire quoi, ça? Soyez fervent d'esprit. Bien, soyez brûlant, allumé pour Dieu et pour les autres. Hein? Il faut que ce soit allumé ici, là. Vous n'avez pas laissé votre cerveau dans le vestiaire ce matin. Vous avez besoin de l'utiliser. Alors, être ferveur d'esprit, ça va avec le zèle. Et la septième, c'est la même chose, le service. Hein, servez le Seigneur. C'est le Seigneur qu'on sert. Il ne faut jamais oublier que je sers dans la vie des autres. Tout ce que vous faites, Paul dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le comme pour qui? Pour le Seigneur, et qu'on a besoin de se rappeler ça régulièrement, et non pour des hommes. J'avais besoin ce matin, dans mon excitation, ma nervosité, mon appréhension même, après 6 mois, de dire, Seigneur, c'est toi que je sers d'abord. C'est devant toi que je me tiens d'abord, avant n'importe qui. Alors, dans tout ce qu'on fait, faisons-le pour le Seigneur. La joie de l'espérance, 8e exhortation. Réjouissez-vous en espérance. Tu vois, la joie, ça sert à entretenir cette flamme d'amour envers l'autre et ça renouvelle mon espérance dans les choses que Dieu me réserve. Parce que Dieu a préparé des choses pour nous. Il a préparé des choses dans l'éternité pour nous. Dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre où la justice sera parfaite, où elle va habiter, Dieu a des choses extraordinaires pour nous, au-delà de notre imagination. Et j'ai la joie de cette espérance qui va avec, de savoir ce que le Seigneur me réserve, même si je n'ai pas tous les détails. Ensuite, dans les moments difficiles, mais la neuvième, elle est très importante, la patience ou l'endurance dans les épreuves. Soyez patient dans la tribulation. Cette facette de l'amour nous rappelle ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. C'est quasiment synonyme, hein? L'amour supporte tout. En attendant justement le ciel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le retour de Jésus-Christ, le ciel, la félicité céleste, la présence parfaite de Jésus, la présence de Dieu, plus besoin de lumière, hein? Dieu est là, on va être avec lui, avec les frères et les sœurs, qui nous ont quittés peut-être trop tôt, qui nous ont devancés. Mais en attendant tout ça, il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des contrariétés qui peuvent nous paraître souvent, quoi, interminables. Habituellement, nos souffrances, on les considère comme, on a l'impression qu'elles sont interminables. Et Dieu nous demande de patienter jusqu'à l'exaucement de nos requêtes. Ce qui nous prépare à la dixième exhortation, la persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière. Lorsque nous aimons réellement, frères et sœurs, nous continuons à prier pour l'autre et pour ses besoins et ses fardeaux. Jusqu'à l'exaucement. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On remercie. On rend grâce à Dieu pour ses réponses. L'épreuve doit nous conduire non pas à l'amertume, comme on pourrait tenter de le faire, mais à dépendre de Dieu dans la prière. Et laissez-moi vous dire que la prière est absolument nécessaire pour mettre en pratique toutes ces exhortations-là, sinon on serait incapable. Il faut dépendre de Dieu. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit que l'espérance, la patience et la prière sont des partenaires naturels dans la vie chrétienne. Je répète, l'expérience, la patience et la prière sont des partenaires naturels dans la vie de prière, dans la vie chrétienne. Onzième exhortation, la générosité envers les frères et sœurs. Subvenez aux besoins des saints. L'amour doit d'abord pourvoir aux besoins des autres, croyants de la famille spirituelle. D'ailleurs, presque tous les textes du Nouveau Testament où on nous exhorte à être généreux, c'est d'abord envers les frères et les sœurs en la foi. Même la parabole de Matthieu 25, c'est d'abord envers les plus petits de ceux de mes frères, hein, de ceux à qui vous avez été généreux, vous avez donné, vous avez visité, etc. Alors, un cœur qui aime va être généreux, de toutes sortes de manières. Quand tu donnes à un frère ou une sœur, puisque tout ce que tu possèdes vient du Seigneur, je pense que tu as déjà pensé à ça, tout ce que j'ai me vient de Dieu, tout ce que j'ai, je l'ai reçu du Seigneur. Alors, quand je donne à un frère ou une sœur, qu'est-ce qui se passe? Je fais un virement de compte interne du Seigneur. Le compte du Seigneur, il y a juste un virement qui se fait. Ça passe d'un à l'autre. Vous envoyez des fois des paiements ou par virement de compte. Hein, vous payez quelqu'un par courriel maintenant, ça se fait depuis déjà un bout de temps. Mais l'argent du Seigneur, c'est la même chose. Ça passe de ton compte à celui de ton frère ou de ta sœur. Mais c'est toujours l'argent du Seigneur. C'est toujours ce que le Seigneur t'a donné et ce qui lui appartient. Ensuite, on a l'hospitalité. Douzième. On m'entend? Ça va? OK. Je pensais que j'avais perdu le son, mais ça va. C'est peut-être que je vieillis puis les oreilles baissent un peu. C'est possible. L'hospitalité. Tâchez d'exercer l'hospitalité, Paul dit au verset 13. Quelqu'un a dit « cœur aimant, maison ouverte ». Cœur aimant, maison ouverte. Il y a un prix à payer pour être hospitalier, mais on est tellement béni. On est fatigué après, il faut faire la vaisselle, il faut ramasser, quand on reçoit des gens à manger, mais on est tellement béni. Lorsqu'on reçoit des frères et des sœurs en Jésus-Christ, moins proches, peut-être seuls, étrangers, différents de nous, moins fortunés, qui n'ont pas peut-être les moyens de nous rendre l'appareil, peu importe, ce n'est pas important, c'est une joie de pratiquer l'hospitalité et d'offrir, d'ouvrir nos foyers et notre temps aussi. Treizièmement, la solidarité dans la joie et dans la peine. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. En Jésus-Christ, un amour véritable ne peut que s'associer aux joies et au partage de la peine des autres. Quand quelqu'un est dans la joie, tu te réjouis avec lui. Quand quelqu'un est dans la peine, tu pleures avec lui. Je ne peux pas prendre plaisir au malheur des autres, on s'entend. Et je me réjouirai des bénédictions qu'ils reçoivent ou des succès, pardon, plutôt que de les envier ou d'être jaloux. Parce que ça aussi, c'est une tentation, n'est-ce pas? Quand un frère te montre sa nouvelle voiture de l'année, puis toi, tu as ton taco, qu'est-ce que tu fais? Hein, tu pleures avec ceux qui pleurent? Non, tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent. Tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent. Et je dis ça, ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un a une réponse à la prière, il te la partage. C'est une joie. On se réjouit avec lui. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur nous appelle. Il y a un frère qui m'a dit ça il y a plusieurs années. Je n'ai jamais oublié. Je le dis fréquemment. Rappelons-nous qu'on doit porter les problèmes des gens, non pas sur nos épaules, mais sur nos cœurs ou dans nos cœurs. Les porter dans nos cœurs. C'est C.S. Lewis, le grand auteur chrétien, on pense qu'il était chrétien, qui a écrit « La seule façon de s'assurer de ne pas avoir un cœur brisé, c'est de ne jamais le donner aux autres. » Si tu le gardes pour toi, il ne sera jamais brisé. Mais si tu le partages, ça fait partie du prix à payer de la solidarité dans la peine et dans la joie. L'avant-dernière, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Encore là, c'est tellement actuel. Avec ce qui suit, Paul semble nous encourager d'avoir la même considération pour tous. Avoir les mêmes sentiments, ça ne dit pas « ayez tous les mêmes opinions ». Soyez pas nécessairement d'accord sur tous les détails, mais ayez les mêmes sentiments. Et les sentiments de quoi dans le contexte? D'affection, d'amour, hein, de prévenance réciproque. On n'a pas besoin de penser tous la même chose, d'être d'accord sur tout, mais on peut avoir les mêmes sentiments. On est un corps, on a un sauveur vers qui on tend et que nous adorons. Et il termine avec ce avec quoi il a commencé. Pardon. Excusez-moi, je devrais... Ça va revoler jusqu'à la caméra là-bas. L'humilité. L'humilité. N'aspirez pas à ce qui est élevé, verset 16, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Un cœur orgueilleux et présomptueux, vous en conviendrez, est incapable d'aimer et de rechercher la paix et l'harmonie parce qu'il pense juste à lui. Les choses humbles et les personnes humbles sont à rechercher. Si tu veux grandir dans ta vie chrétienne, oui, des gens doués, des gens remplis de sagesse sont une ressource extraordinaire. Mais ce qui devrait caractériser ces gens-là, ce sont l'humilité. Ils ne se prennent pas pour d'autres. Parce que l'Église, l'obstacle premier de l'unité dans une Église, c'est quoi? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui amène les luttes de pouvoir? Qu'est-ce qui amène « je vais avoir raison à tout prix » C'est quoi ça? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Donc, on doit rechercher l'humilité. Donc, on vient de voir 15 facettes d'un amour authentique, concret envers les autres, démontrant que nous leur sommes consacrés. Vous allez dire, ouais, il y a du stock de réflexion là-dedans. Là. Il y a beaucoup à réfléchir. Bien, j'aimerais juste vous rappeler une chose en terminant. Si nous avons le moindrement, la capacité de nous consacrer aux autres, c'est par la grâce de Jésus-Christ dans nos vies. On ne doit jamais oublier que si nous l'aimons d'abord, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et si nous pouvons aimer les autres, c'est grâce à son amour dans notre vie, qu'il a déversé dans notre cœur. Notre amour pour les autres, c'est notre réponse à son immense amour envers nous. D'abord dans Romains 12, un amour qui est consacré à Dieu, mais ensuite une vie qui est consacrée aux autres. Et lorsqu'on place justement notre foi en Jésus-Christ, eh bien, Dieu crée en nous un cœur nouveau, c'est ce qu'il fait. Il nous accorde un cœur nouveau qui nous permet d'aimer de la sorte parce que, vous en conviendrez, ce n'est pas naturel d'aimer comme ça. Ce n'est pas naturel de vivre tout ça. Alors, avons-nous ce désir aujourd'hui d'aimer et de faire le bien avec persévérance, malgré les différences d'opinion, malgré les incertitudes, malgré le mal, malgré tout ce qui peut se passer, en comptant sur Dieu, en comptant sur sa grâce? Venons à lui aujourd'hui. Si tu n'as pas encore remis ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à le faire et à trouver en lui ton sauveur et ton maître. Et plutôt que de se décourager avec ces 15 exhortations-là, puis de dire « Oh, où est-ce que je commence? » Identifie-en une. Commence avec une que tu aurais besoin de mettre en pratique cette semaine. Et ensemble, nous allons prier que Dieu puisse nous aider par ce progrès-là qu'on fera, à démontrer aux autres que nous avons une vie qui appartient au Seigneur Jésus et qu'on est un chrétien ou une chrétienne qui est consacrée aux autres. Avons-nous ce désir, dans les semaines d'incertitude qui sont devant nous, de continuer à aimer et avoir une vie consacrée aux autres? C'est ma prière pour vous et pour moi aussi. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier ce matin que tu nous permets non simplement de nous rencontrer, mais réfléchir à ta parole, l'écouter, la méditer et pouvoir, Seigneur, grâce à ton amour envers nous, nous pouvons maintenant avoir une vie consacrée aux autres. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous fortifier, nous encourager. Aide-nous, Seigneur, à identifier une de ces exhortations où on a besoin de faire du progrès cette semaine dans notre vie. Que ce soit dans la prière, dans le service, dans l'amour fraternel, dans la tendresse, dans faire preuve de prévenance réciproque, peu importe. Seigneur, encourage-nous. Rappelle-nous que nous avons besoin de dépendre de toi. Viens à notre secours. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore la joie de te connaître, je te prie, une fois de plus aujourd'hui, que tu puisses te révéler à cette personne et qu'elle puisse connaître la joie d'avoir une vie consacrée à Dieu et consacrée aux autres grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en prions, Seigneur, et nous te remettons toutes choses en son précieux nom, notre Père, et nous te disons,